Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne aujourd'hui avec moi, mon invité Valérie Maillochon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission et webmestre pour Musée en Centre Val de Loire. Donc, c'est une association à portée régionale. Peut-être souhaitez-vous nous en dire quelques mots avant que l'on puisse détailler le projet particulier pour lequel vous êtes venue, c'est-à-dire Musée et Santé.
Alors l'association Musée en Centre Val de Loire est une association qui réunit une soixantaine de musées sur le territoire de la région et qui a pour but en fait de faire de la communication pour les musées, de diffuser leurs collections sur une base de données et de pouvoir monter des projets fédérés. On organise également de la formation pour les agents des musées et on travaille avec le CNFPT, Centre de la fonction publique territoriale.
Voilà, donc l'association existe depuis 1977, donc c'est pas une association toute récente. Ça veut dire, je suppose, que l'association a une certaine expertise qui est reconnue à l'échelle de la région.
Oui, tout à fait. On travaille effectivement avec de nombreux partenaires également au sein de cette association, les partenaires de la santé, les partenaires du tourisme, les partenaires de l'université. Donc on a vraiment un réseau culturel assez important pour justement nous permettre de travailler sur des projets fédérés à destination du public pour les musées.
Voilà, donc c'est une association qui est à destination, je suppose, des conservateurs, des attachés d'exposition, peut-être des professionnels de la médiation. Ce public-là, vous leur proposez aussi des formations.
Tout à fait. Donc en fait, c'est effectivement une association qui regroupe des conservateurs, des chargés de collection, des régisseurs des œuvres, des médiateurs. Donc pour effectivement avoir une vision assez globale un petit peu du travail dans les musées. Et oui, on organise de la formation, divers types de formations, hein, tout à fait, en lien avec l'actualité et en lien avec les demandes des membres.
Voilà, donc il y a des journées d'échanges et de rencontres, mais il y a aussi plus précisément des stages. Et donc dans ces stages, peut-être que vous voulez donner quelques exemples. Hein, où il me semble que par exemple vous faites des choses avec Culture du Cœur, donc qui est quand même un acteur reconnu pour tout ce qui est...
Alors si, on va travailler avec Culture du Cœur, mais sur un autre projet en fait, qui est un projet de médiation là, à destination des publics sociaux. Donc l'idée effectivement est de pouvoir faire que les professionnels des musées de la région et les professionnels des milieux sociaux puissent se rencontrer pour travailler ensemble autour de projets communs. Et donc notre partenaire effectivement sur ce projet là, ce sera Culture du Cœur. Là, pour le coup, moi, j'interviens vraiment pour les musées. Culture du Cœur intervient pour les travailleurs sociaux. Et en fait, on va organiser des journées qui vont permettre à ces personnes, donc des deux réseaux, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger autour de projets de médiation. Donc voilà, donc notre Culture du Cœur sera vraiment notre partenaire pour cibler aussi les associations qui sont intéressantes pour le projet et de pouvoir effectivement communiquer autour de ce projet.
Ah, donc Culture du Cœur, hein, peut-être qu'on peut le rappeler, intervient plutôt, donc comme vous le disiez, auprès des publics sociaux. Donc peut-être qu'on peut préciser, c'est quoi un public social ?
Alors, les publics sociaux, c'est effectivement les publics qui sont en difficulté, qui sont dans la pauvreté. Il y a aussi les publics de migrants, les publics mères-enfants, seuls également.
Ah, donc des publics pour lesquels ce n'est pas toujours simple d'aller vers les lieux de culture. Et alors pour ce qui est de la mise en valeur du patrimoine, on voit aussi sur votre site, hein, il existe des visites virtuelles et il y a même un catalogue des collections des musées. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, l'association a vocation à diffuser les collections des musées. C'est-à-dire que dans les musées, chacun est équipé d'un logiciel d'inventaire qui permet en fait de faire la gestion des collections. C'est-à-dire de savoir où est située telle œuvre, à quel endroit, dans quel état elle est, disposée d'une photo, disposée poser des mesures. En fait, c'est très intéressant, notamment quand on monte une exposition et qu'on a besoin de travailler sur une thématique. On fait une recherche dans cette base de données qui sort un certain nombre d'œuvres et d'objets pour l'exposition. Et donc nous, on se sert de ces informations qui sont contenues dans ce logiciel pour les mettre en ligne à destination du grand public. Donc en fait, tout un chacun peut effectivement visualiser quelques-unes des 17 000 œuvres qui sont en ligne sur notre base de données.
Voilà, donc supposons, je ne sais pas, que parmi notre public étudiant, il y ait des médiateurs en devenir qui souhaitent faire un projet d'exposition autour des fruits ou des fleurs, par exemple. Ils peuvent tout à fait aller sur votre site pour chercher par mots-clés, en fait, toutes les œuvres en lien avec cette thématique.
Oui, tout à fait. Il y aura des tableaux, il y aura des sculptures, des œuvres d'art, du dessin, des objets. Enfin bon, vraiment toutes sortes d'objets et parfois des objets parfois un peu insolites.
Un exemple d'objet insolite ?
Eh bien, en région centre, nous avons trois momies, en fait. Alors, dans les musées de Châteaudun, dans le musée de Châteauroux et les musées de Bourges. Et donc, nous mettons en ligne la fiche, notamment de la momie des musées de Bourges, qui est une fiche qui est très bien documentée, avec beaucoup d'informations sur les différents hiéroglyphes qui sont présents sur la momie.
D'accord, bon. Et si jamais on souhaite devenir bénévole d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas adhérer à cette association, est-ce que c'est possible et c'est pour quoi faire ?
Alors c'est plutôt une association de professionnels, hein. Donc c'est plutôt des professionnels du patrimoine qui peuvent adhérer à cette association. Et effectivement, adhérer à cette association, c'est pouvoir travailler par exemple sur une exposition virtuelle, c'est pouvoir travailler sur un projet effectivement tel que le projet Musée et Santé dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment... Et puis d'échanger aussi, il y a un forum professionnel, on échange sur des thématiques, sur des questions professionnelles, on se rencontre également parce que la rencontre est quelque chose de très important, de voir les gens, après ça permet de mieux travailler avec.
Et alors cette association, est-ce qu'elle est unique en France ou est-ce que vous avez des homologues, disons, dans d'autres régions ?
Alors oui, il y a d'autres associations professionnelles comme ça dans d'autres régions. Chacune a un développement qui est un petit peu différent. Parfois, il n'y a pas du tout de salariés. Moi, je suis la seule salariée de cette association. Parfois, il y a trois salariés. Parfois, il n'y en a pas du tout. Donc, de ça dépend effectivement le développement de l'association. Mais effectivement, il y a une association comme ça dans toutes les régions et qui dépend en fait d'une association mère qui est l'association des conservateurs des collections publiques de France, la GCCPF.
Valérie Maillochon, avant de parler plus en détail de ce projet Musée et Santé, je vous propose, comme à nos auditeurs, de faire une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tours.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tours dans la Méridienne. Mon invité est Valérie Maillochon, chargée de mission, webmestre musée en Centre Val-de-Loire. Alors Valérie Maillochon, vous êtes venue entre autres pour nous parler du projet Musée et Santé mené par l'association des musées en Centre Val-de-Loire. Alors comment est né ce projet? D'où vient-il? J'imagine qu'il est le fruit d'une réflexion quand même, que ça vous est pas venu comme ça.
Oui, tout à fait. C'est le fruit d'une réflexion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet qui a été mené sur 3 ans et qui a été mené en 2 phases. Dans une première phase, effectivement, on a fait se rencontrer les personnels du milieu de la culture, enfin donc du milieu des musées, et les personnels des structures de santé. En fait, toutes structures de santé confondues, on a travaillé avec la mission Culture Santé, dont Marianne Vignol est la représentante en région centre. Et en fait, on a travaillé à faire se croiser nos réseaux. On organisait des journées départementales où en fait les musées venaient se présenter au personnel de santé qui était dans la salle afin justement de mieux se faire connaître, de mieux faire connaître leur équipe, leur accessibilité et les projets qu'ils ont menés déjà à destination de ces publics et qu'ils pourront évidemment proposer par la suite. Et ensuite, au contraire, les personnels des structures de santé, eux, venaient évoquer un petit peu leurs besoins, leurs envies de travailler sur des projets culturels, évoquer également leurs contraintes, leur public, quels étaient les publics auxquels il fallait s'adresser. Donc c'était des temps d'échange qui étaient vraiment importants pour justement proposer après le projet de médiation qui nous intéresse là en ce moment, qui est le travail sur 5 expositions en lien avec 6 musées.
Voilà, donc il y a l'idée que les publics concernés puissent venir dans les lieux de culture, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt que les expositions, les œuvres viennent dans les lieux de vie. Alors, est-ce que vous voulez peut-être détailler quelles sont les structures qui vont accueillir des expositions, parce que chaque structure a son public spécifique pour qu'on puisse se rendre compte en fait, du travail que cela a nécessité.
Alors en fait, autour de ces 5 expositions, il y a eu 19 structures sanitaires et médico-sociales qui ont souhaité effectivement travailler avec nous. Donc ce sont des structures qui sont toutes très différentes. On a par exemple autour des collections du Musée des Beaux-Arts de Tours, l'hôpital de jour de la Chevalerie, du CHU. On a la masse des Évives à Joué-les-Tours, on a le Femmes des Cerisiers à Vouvray, on a le foyer de vie Michel Beuzelin à Saint-Cyr-sur-Loire, on a la résidence Georges Courtelier à Tours et les pattes de la Vasselière de Mont. Donc vous voyez, ce sont des structures qui sont vraiment très très différentes avec des types de handicap qui sont également très différents. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment cette différence des participants qui fait aussi que ces expositions, conçues sur un même protocole à la base, sont également très différentes.
Voilà, donc dans les structures que vous venez de citer, on a évidemment donc EHPAD et personnes âgées. On a aussi avec la chevalerie plutôt un public hôpital de jour de psychiatrie. Donc on voit en effet que c'est des choses très, très différentes. En fait, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Mais comment on peut même établir, construire une exposition à partir de ces publics très différents?
Alors en fait, le protocole de ces 5 expositions est un protocole qui est commun, c'est-à-dire qu'au début, donc on a demandé aux musées qui souhaitaient effectivement participer dans un premier temps à ce projet. On a demandé aux structures de santé qui voulaient participer à ce projet. Donc 19 structures, ont souhaité participer et en fait on les a toutes intégrées. Et on les a toutes intégrées aux musées qui étaient au plus proche de chez elles, en fait, pour qu'il y ait quand même un rapport de proximité assez important et des liens qui puissent se créer pour proposer ensuite d'autres projets par la suite. Donc en fait, le musée a choisi le thème général de l'exposition, très en lien avec ses collections. Ensuite, ce sont les structures sanitaires et médico-sociales qui ont proposé à leurs usagers cette thématique. Plusieurs visites ont eu lieu dans les musées et ensuite, ces usagers ont choisi de travailler sur telle ou telle œuvre. C'est vraiment eux qui ont choisi les œuvres qui sont présentées dans cette exposition. Et ensuite, il y a un artiste intervenant pour chacun des projets qui est venu travailler avec les usagers à la réalisation de cartels sensibles. Alors les cartels sensibles, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que vous savez tous que dans les musées, il y a des cartels, ce sont ces petits panneaux qui sont situés en fait en dessous le tableau et qui donnent des explications. Là, le cartel sensible, c'est une interprétation en fait des œuvres qui ont été choisies par les usagers. Alors ça peut être une interprétation sonore, ça peut être une interprétation plastique, une interprétation sous forme de photo, sous forme de dessin. Donc toutes ces interprétations font également que ces expositions sont différentes.
Alors évidemment, comment dire, si on associe les usagers, on imagine que d'emblée, on va avoir des cartels adaptés à des personnes d'un grand âge, c'est-à-dire voilà, parce que on peut supposer que les cartels écrits en tout petit, c'est compliqué à lire quand on a du mal à voir. Peut-être pour les personnes qui sont atteintes de déficience intellectuelle, c'est compliqué, des mots pas toujours simples. Voilà, ça peut être aussi pour des personnes qui souffrent de déficience visuelle, évidemment, sauf s'il y a une traduction en braille, c'est compliqué aussi d'y accéder. Donc, c'est-à-dire qu'en associant tous ces publics, on obtient un cartel qui va être, disons, je ne sais pas si c'est multilingue, mais disons que chacun va pouvoir y trouver un mode d'expression qui lui convient.
Alors oui, tout à fait. Donc les cartels sont réalisés dans un premier temps en gros caractères, hein, ça c'était quelque chose qu'on souhaitait, et ils sont réalisés en FALC, c'est-à-dire en facile à lire et à comprendre. Donc en fait, c'est une technique qui vise à mettre sujet-verbe-complément dans une phrase et de ne pas la complexifier plus que ça. Ensuite, toutes les phrases sont mises à la ligne, donc pour une facilité de lecture. Donc ça, c'est plutôt effectivement pour un public déficient, avec des déficiences mentales, pour simplifier effectivement le discours. Ensuite, par exemple, sur le projet de Blois, qui est un projet autour des cinq sens, nous avions dans une structure qui est la structure de l'Hospitalet, une personne qui était aussi handicapée visuelle et donc qui savait écrire le braille et qui nous a tapé les cartels en braille. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que chacun apporte son expertise. Que ce soit les accompagnants des structures sanitaires et médico-sociales qui ont relu en fait les cartels en FALC pour nous dire, vous savez, là c'est un peu compliqué, donc il faudrait simplifier un petit peu, ou que ce soit les usagers qui, avec l'exemple de cette personne, nous ont effectivement apporté leur connaissance du braille que nous n'avons pas nous-mêmes.
Et alors du coup, là, c'est là qu'intervient le son, puisqu'il y a aussi, donc, comme vous le disiez, des cartels sonores.
Oui, alors effectivement, dans quatre de ces expositions, intervient le son à chaque fois, pour des modalités en fait qui sont un petit peu différentes. Là où il intervient de façon plus importante, c'est sur le projet autour des collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans et du Musée de la Marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire. En fait, on a fait intervenir un artiste qui s'appelle Anthony Baron, et qui est musicien et qui a réalisé en fait des petites pièces sonores pour chacune des œuvres, des 10 œuvres qui sont exposées, et qui permet en fait il va chercher dans les tableaux tous les éléments qui font son et avec par l'intermédiaire de bruitages, de choses qui sont parfois tout à fait simples, hein, avec des bouteilles en plastique, avec des bulles qu'on peut éclater en fait, et il va chercher à reproduire tous les sons qui sont à l'intérieur du tableau et qui sont en relation avec le thème choisi qui est le thème de l'eau. Alors on a l'eau sous toutes ses formes, on a de la neige, on a de la pluie, on a l'orage, on a la mer, on a le bruit des vagues, et donc tous ces sons sont mêlés dans des pièces sonores qui permettent effectivement, en plus pour les gens qui ne sont pas atteints de handicap visuel, hein, de pouvoir vraiment mieux appréhender le tableau, c'est-à-dire de pouvoir voir tous les petits détails que parfois bah, finalement on omet quand on regarde rapidement un tableau.
Voilà, il me semble d'ailleurs que vous avez apporté un de ces extraits sonores. Alors, que voulez-vous nous faire écouter ?
Alors, c'est un extrait sonore qui est en relation avec un tableau du musée de la Marine de Loire, qui est un tableau sur le thème des lavandières, et donc qui a été réalisé par Anthony Baron et par les usagers de plusieurs structures de santé.
Alors, nous écoutons cet extrait sonore et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne.
Thank you.
Nous venons donc d'écouter un des cartels sensibles et sonores réalisés dans le cadre de ce projet Musée et Santé. Valérie Maillochon, est-ce que vous voulez nous redonner le nom de l'artiste qui a réalisé ces cartels sonores ?
Oui, c'est Anthony Baron, donc qui est musicien à Orléans.
Et comment sont intervenus les participants ? Est-ce qu'ils ont fait avec lui la collecte sonore ? Est-ce qu'ils ont participé au montage ? Comment ça s'est passé ?
Alors, ils ont plutôt fait la collecte sonore, effectivement. Donc, Anthony avait apporté plein d'objets qui permettent de faire du son. Et en fait, ils ont travaillé sur l'enregistrement en fait, de ces sons. Et c'est Anthony qui, par la suite, les a mis les uns derrière les autres, a mis un fond sonore pour adoucir, effectivement, et faire vraiment de véritables petites pièces sonores. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que quand on se met devant un tableau et qu'on écoute vraiment le son qui a été réalisé, et ben très sincèrement, on ressent une sensation vraiment de bien-être. En plus d'avoir appréhendé les détails du tableau, on a vraiment cette sensation de bien-être.
Voilà, et peut-être qu'il y a autre chose de curieux et d'intéressant, c'est de dire, est-ce que si on écoute, mes chers auditeurs, vous pourrez en témoigner, si on écoute seulement cette création sonore, peut-être qu'on a aussi une image mentale, que ça, on imagine le tableau si on ne l'a pas sous les yeux. Alors ça fait un autre phénomène à exploiter peut-être.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que cette exposition autour des collections de Châteauneuf et d'Orléans a été montée notamment en collaboration avec une structure, le SAVS Aveugle Centre Val-de-Loire, en fait, qui est située à Orléans. Et donc, on avait deux participantes et il était vraiment important que ces participantes puissent bien appréhender les œuvres. Donc, dans un premier temps, pour le Musée des Beaux-Arts d'Orléans, les médiatrices ont souhaité faire de l'audio-description, en fait, de ces tableaux. En donnant effectivement en partant de la sensation que l'on éprouve en regardant l'œuvre et en allant progressivement en fait vers des éléments de détail qui sont les plus importants du tableau. Et donc voilà, et avec ces audiodescriptions et avec ces cartels sonores, on peut avoir une appréhension qui est très différente effectivement de l'œuvre. Et puis même, on peut aussi s'amuser à ne pas regarder l'œuvre et à se faire effectivement cette projection mentale autour de cette collection.
Et peut-être qu'il y a, comment dire, que le toucher aussi peut être exploité pour ces œuvres à l'usage des personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes. Par exemple, est-ce on voit dans certains musées ou des éléments qu'on peut toucher. Par exemple, il y a du bois dans le tableau, donc on peut toucher du bois, il y a de la pierre. Est-ce que ça existe aussi dans ce projet-là ?
Oui, alors ça existe là plutôt sur le projet autour du château, des collections du château de Blois, en fait, autour des cinq sens, justement. Là aussi, on a du son, puisqu'on a des tableaux représentant de la musique, donc on a cherché à mettre le son ici aussi. Mais en fait, on a travaillé avec une artiste qui s'appelle Marie-Laure Rocher, qui est sur Vendôme et qui, elle, est plasticienne scénographe. Et son rôle a été de monter dans les cartels, en fait, des petits tabourets sur lesquels au-dessus, on a un petit plateau et où on a des éléments à toucher. Alors, on va avoir du tissu, on va avoir aussi de la couche picturale, parce que vous savez que dans les musées, on ne peut rarement toucher les tableaux, hein, c'est pas préconisé, c'est même complètement interdit. Donc, on peut toucher la couche picturale, qu'elle soit sur toile ou qu'elle soit sur bois. On a également des éléments en plâtre qui sont des éléments importants du tableau et que l'on peut toucher effectivement sur ces cartels.
Et d'ailleurs, vous avez apporté une reproduction d'œuvres, hein, puisqu'on précise bien que ce ne sont pas les œuvres en elles-mêmes qui vont circuler dans les lieux, en fait, dans les structures médico-sociales. Ce sont bien des reproductions. Alors peut-être juste avant de parler de cette œuvre que vous apportez, rappelez aux auditeurs pourquoi ce n'est pas les œuvres en elles-mêmes qui vont circuler d'un lieu à l'autre.
Eh bien parce que en fait les musées qui travaillent sur ce projet-là sont musées de France et donc on ne peut pas en fait exposer des œuvres dans des endroits qui sont autres que musées de France pour des problèmes en fait de sécurité de ces collections. En plus les œuvres, enfin les reproductions vont être exposées dans des lieux qui sont parfois des cantines, parfois des couloirs, parfois des halls d'entrée, donc dans des endroits où les œuvres peuvent être effectivement abîmées également. Donc voilà, il était important qu'on puisse faire des très belles reproductions des œuvres. Donc on a fait appel, nous, à un photographe qui est spécialisé dans le travail de l'inventaire des collections. Et on a demandé effectivement à une imprimerie EACVL qui est sur Orme et qui est une entreprise en fait adaptée, hein, avec des personnes en situation de handicap, de nous faire ces reproductions et qui sont vraiment de très très belle qualité.
Voilà, et il se trouve que le support en question, c'est du Dibon, donc c'est pas non plus un hasard, c'est parce que je pense que le Dibon, ça répond à certaines normes de sécurité, parce qu'on imagine bien qu'à partir du moment où on veut accrocher quelque chose, j'imagine dans un espace hospitalier ou dans une maison de retraite, mais il y a énormément de normes à respecter, donc je pense par exemple aux rideaux, ils sont ignifugés, enfin il y a plein de choses comme ça, donc là évidemment c'est un choix éclairé.
Voilà, c'est un support qui n'est pas inflammable, c'est un support également qui est très très rigide. Alors on a choisi effectivement ce support-là parce que ces expositions, elles vont tourner donc dans les structures partenaires qui ont participé au projet, mais après, elles sont amenées à pouvoir être empruntées par toute structure. Pas forcément des structures de santé, hein, ça peut être des bibliothèques après, ça peut être des services d'archives, ça peut être des mairies. Donc voilà, donc elles auront leur vie propre, on espère pour longtemps, et donc c'est pour ça que ces supports nous paraissaient effectivement intéressants et solides, et on pouvait avoir une belle qualité de reproduction sur ces supports-là.
Voilà, alors peut-être justement une audio-description de l'œuvre que vous avez apportée. Est-ce que vous voulez nous la présenter ?
Alors, cette audio-description, effectivement, elle a été réalisée... sur cette œuvre-là, il n'y a pas eu d'audio-description, effectivement. Mais par contre, pour pouvoir décrire un petit peu l'œuvre, c'est une œuvre qui est très colorée, qui est issue donc du musée de la Marine de Loire, qui représente les lavandières, et les lavandières au bord de la Loire. Donc, on a tout le paysage de Loire qui est présent. On a des couleurs qui sont extrêmement vives, extrêmement gaies, qui vont en fait du violet en passant par le vert, différentes teintes de vert, et également des couleurs plus brunes, des couleurs beige, et qui donnent effectivement une certaine vivacité, un certain dynamisme. On voit également que l'eau forme des cercles, elle est très vive, très dynamique, et ça apporte vraiment au niveau du regard quelque chose qui est très joyeux.
Un peu de joie dans des établissements où on se doute que la joie et la bonne humeur ne sont peut-être pas toujours là. Donc, est-ce que vous avez déjà eu un retour peut-être des usagers, des différents lieux sur l'idée, le fait qu'il y ait des œuvres qui viennent agrémenter, embellir leur lieu de vie ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a déjà inauguré chacune des 6 expositions donc qui sont présentées dans les structures de santé à l'heure actuelle. Nous avons d'ailleurs inauguré l'exposition autour des collections du Musée des Beaux-Arts de Tours à la Masse des Vives à jouer les tours donc vendredi. Donc c'est assez récent. Et effectivement, les usagers sont très contents de voir leurs œuvres et de voir en fait le travail qu'ils ont produit autour de ces œuvres. En fait, ça, c'était très intéressant. Donc notamment à Tours, c'est un artiste, effectivement, Benjamin Dubuis, qui est un artiste photographe et qui est intervenu dans le cadre de ses ateliers, où il a pris en photo les usagers dans les postures des personnages dans les tableaux, en fait. Donc ça, c'était assez étonnant, assez intéressant. Les usagers étaient très contents de participer effectivement à cet atelier. Ils ont mis en scène eux-mêmes d'autres usagers avec des éléments, avec des costumes, avec d'autres éléments pour les photos. Et c'est les usagers eux-mêmes qui ont appuyé en fait sur l'appareil photo de Benjamin. Et lui a mis en place toutes les lumières, il a aussi retouché les photos. Et ça donne des photos qui sont très intéressantes, très belles esthétiquement. Et les usagers sont tous très beaux sur les photos. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'on avait les encadrants en fait de ces structures étaient présents et se sont pliés au jeu et eux aussi étaient photographiés à l'intérieur de ces photos. Et il est parfois très difficile de voir quels sont les usagers et quels sont les encadrants de ces structures.
Voilà, donc on peut rappeler où est-ce qu'on peut aller voir ces photos, parce qu'évidemment l'idée c'était aussi que les expositions soient accessibles au grand public et pas forcément réservées que aux personnes qui vivent ou en tout cas qui fréquentent ces lieux habituellement.
Tout à fait. Et c'était vraiment une demande des structures de pouvoir produire des expositions qui puissent être visibles par le public extérieur. C'est étonnant parce que chacune des 19 structures nous a formulé en fait cette envie-là. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de... Il y a des temps qui sont réservés au grand public. Il faut aller sur le site internet musée.régioncentre.fr et là, vous avez toutes les informations en fait pour chacune des expositions et les dates auxquelles ces expositions peuvent être ouvertes au grand public. Dans certaines structures, elles sont ouvertes tout le temps. Dans d'autres structures, il y a des jours, comme le week-end ou les mercredis, où il y a des accompagnateurs, où il y a des encadrants qui étaient présents sur le projet, voire même des usagers, et qui vont pouvoir faire même la médiation à destination des publics qui sont là. Là aussi, c'était une demande. Notamment, on a une exposition autour des collections du château de Blois, hein, qui va ouvrir à l'Hospitalet à Montoire-sur-le-Loir. Donc, ça va être mercredi. Et en fait, les usagers de ces structures, ce qui les intéressait beaucoup, c'est de pouvoir faire la médiation autour des œuvres qui sont présentées.
Est-ce qu'il y a des usagers médiateurs à Tours et alentour ?
Alors non, pas vraiment. Alors si à Tours, il pourrait y avoir des usagers médiateurs à partir du moment où l'exposition ira dans les deux EHPAD, hein, Georges Courteline et La Vasselière, où les gens là aussi souhaitaient faire de la médiation. Après, les encadrants, les gens qui étaient présents, effectivement, les agents de ces structures, pourront faire la médiation, ou en tout cas expliquer comment s'est monté le projet et les ressentis, leurs propres ressentis et le ressenti des usagers par rapport à ce projet.
Je vous propose, Valérie Maillochon et chers auditeurs, avant de poursuivre sur ce projet, de faire une nouvelle pause musicale dans cette méridienne et on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours Radio Campus Tours, La Méridienne, nous parlons d'exposition, d'art et de santé, puisque nous parlons du projet Musée et Santé mené par l'association Musée en Centre Val-de-Loire. Et mon invité est toujours Valérie Maillochon, chargée de mission pour Musée en Centre Val-de-Loire. Alors, peut-être que l'on peut dire un mot sur le financement, pardon d'être si prosaïque, mais de ce projet, parce qu'on imagine bien que pour faire intervenir autant de structures, des artistes, évidemment, il faut quand même un budget. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ?
Oui, tout à fait. Alors, le budget de cette exposition en global est à peu près 36 000 euros. On a eu un financement par la DRAC Centre qui est de 30 000 euros. On a eu ensuite un financement par l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé, qui était normal qu'il intervienne un petit peu sur ce projet-là, mais également du mécénat avec le Crédit Agricole et la Fondation Orange qui a financé notamment le film, le petit film qui est en lien avec les expositions qui est présenté à chacune des inaugurations.
Il me semble d'ailleurs que la Fondation Orange s'intéresse particulièrement aux personnes en situation de handicap intellectuel et aussi aux personnes porteuses d'un autisme. Il me semble que ça les intéresse, ces publics.
Oui, tout à fait. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répondu à un appel à projet de la Fondation Orange sur notamment pour toucher les publics de la santé hors les murs. Donc c'est vrai qu'on était, le projet était bien dans ce contexte-là et donc c'est grâce à ça qu'on a pu effectivement obtenir un financement.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça devient indispensable pour une structure telle que la vôtre de faire appel au mécénat privé pour monter ces projets, parce qu'on en a même besoin.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est quelque chose d'important et qui sera dans l'avenir, je pense, de plus en plus développé. Alors bon, pour l'instant, effectivement, le financement est quand même en grande partie par l'État, hein, ça c'est sûr. Mais on voit que beaucoup d'entreprises privées sont de plus en plus intéressées par le croisement entre la culture et le champ du handicap et de la santé.
Est-ce que vous avez d'autres exemples, peut-être, où il y a des partenariats de cet ordre-là, hors de ce projet autour de la santé ?
Alors non, j'en ai pas vraiment d'autres en fait, parce qu'on n'a pas contacté d'autres financeurs, on n'avait pas forcément besoin, notre budget était déjà préétabli, mais il y a aussi beaucoup de structures qui travaillent avec notamment le handicap et le sport, hein, notamment sur Blois, des entreprises comme Sidamo travaillent effectivement dans ce cadre-là.
Est-ce qu'il y a un autre projet en cours dont vous aimeriez nous parler ?
Alors oui, il y a ce projet effectivement avec Culture du Cœur et ce projet de médiation dont je vous ai parlé tout à l'heure autour des publics sociaux. Donc dans un premier temps, c'est un temps de rencontre effectivement entre les deux réseaux. Mais ensuite, il y aura un projet de médiation qui sera un petit peu différent de celui-ci. Ce sera plus un projet d'exposition, c'est-à-dire que chacune des personnes qui travaillera sur ce projet, chacun des usagers, en fait, choisira une œuvre et en fera la médiation lui-même. Pour cela, il sera aidé effectivement par le documentaliste de la structure, par le médiateur de la structure, mais également par des troupes de théâtre que l'on invitera effectivement à travailler pour justement... Évidemment, le contenu sera produit par l'usager, aidé par le documentaliste, mais ce sera la mise en forme qui sera effectivement aidée par des structures de théâtre, peut-être de mime, peut-être également de danse. Pour l'instant, rien n'est complètement abouti. Et en fait, si on imagine qu'il y a une dizaine d'usagers qui travaillent sur ce projet-là, ça fera une dizaine d'œuvres et donc un parcours au sein du musée. Et on pourra imaginer, par exemple, dans le cadre d'une soirée un peu spécifique, de pouvoir animer le musée comme ça, c'est-à-dire que les visiteurs viendront écouter en fait ces usagers parler de leurs œuvres dans le cadre de ce parcours.
Et alors, si jamais, sait-on jamais, parmi nos auditeurs, il y a des usagers, des structures intéressées par ce projet, comment on fait pour vous contacter ?
Eh bien, effectivement, ils peuvent me contacter via notre site internet, hein, musée au pluriel .régioncentre.fr. Et là, effectivement, il y a l'adresse mail de l'association, il y a aussi le numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter pour pouvoir participer à ce projet ou en savoir plus sur le projet Musée Santé.
Eh bien, grand merci à vous, Valérie Maillochon, d'être venue nous présenter votre association et ce projet Musée et Santé dans la Méridienne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Bonne journée à vous.
Oui, bonjour, alors c'est la Bibliothèque Municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises.
Non,
bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà. à la Bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
Et donc, moi, je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres », qui a été scénarisée et dessinée par Émile Ferris aux éditions Toussaint L'Ouverture. Monsieur Toussaint L'Ouverture, pardon. Et donc, cette bande dessinée qui a été publiée en France en 2018 a reçu plusieurs prix, dont celui du Fauve d'Or à Angoulême. Et donc, on y découvre l'histoire de Karen dans le Chicago des années 60. Karen, c'est une petite fille de 10 ans qui voue une passion infinie aux monstres. Et d'ailleurs, elle-même, dans la bande dessinée, elle est représentée comme un loup-garou. Et donc, un jour, la voisine de Karen, donc, qui s'appelle Anka, se suicide. Et Karen n'y croit pas. Et donc, à partir de là, elle décide d'enquêter. Et là, elle va découvrir qu'Anka a un passé dans l'Allemagne nazie. Donc là, entre donc le passé dans l'Allemagne nazie d'Anka, le propre quartier de Karen et donc les secrets de son entourage, les monstres, qu'ils soient bons ou mauvais, sont partout autour de Karen. Donc moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est vraiment une œuvre magistrale, entièrement réalisée au stylo bille. Et on ne peut vraiment que souffler par la prouesse graphique de l'autrice, d'autant plus quand on sait qu'elle a été victime d'une méningo-encéphalite il y a 15 ans de ça. Et cette maladie l'a vraiment handicapée. Mais elle s'est vraiment accrochée et elle est allée jusqu'à se scotcher un crayon à la main pour pouvoir continuer à dessiner. Donc rien que ça, c'est magistral de sa part et il faut le saluer. Et dans ce livre, quand on le regarde, on le feuillette, c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de dessins de tableaux. Il y a énormément de reproductions de tableaux. Karen va beaucoup au musée avec son grand frère, donc du coup, bon là on peut pas le voir, mais il y a vraiment des reproductions minutieuses de...
C'est Géricault, ça ?
Géricault, voilà, merci. J'arrivais pas à retrouver. Géricault, et vraiment c'est un pavé de 800 pages, c'est énorme et ce n'est qu'un premier volume. Donc vraiment, elle y a passé 6 ans à écrire cette bande dessinée. Elle a eu énormément de refus d'éditeurs avant de réussir à trouver quelqu'un qui accepte de la publier. Et quand on voit le succès qu'il a eu, je pense qu'il y a quelques éditeurs qui ont dû s'en mordre les doigts. Et donc vraiment, c'est un premier roman graphique, enfin un premier ouvrage tout court d'Émile Ferris, qui est une femme, je précise. Donc c'est sa première publication et ça mérite vraiment son succès et ses prix.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il a imprimé sur un papier avec des lignes, un papier de bloc. Donc elle a absolument pas cherché à rentrer dans des normes, des cases éditoriales avec un beau papier blanc, des cases bien rectilignes, bien ajustées au cordeau millimétrique. Et là, le fait d'assumer le support comme ça et d'en faire un élément graphique aussi, somme toute, c'est... Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
Oui, ça fait vraiment... Enfin, là, on n'est pas toujours d'accord sur la définition de roman graphique entre nous, mais je pense que celui-là rentre pleinement dans la définition de roman graphique. Enfin...
C'est... Moi, ça m'évoque... Enfin, c'est vraiment l'élan créatif, quoi. C'est-à-dire, c'est comme le... On va dire le môme qu'il a, qui a envie de dessiner, de sortir quelque chose, et puis il va prendre le premier morceau de nappe ou de copie grand carreau qui lui tombe sous la main et qui, voilà, il crée, il dessine, il compose, et on retrouve ça complètement. Voilà, il y a du noir et blanc, il y a des moments, il y a de la couleur, mais il n'y a pas forcément d'alternance prévue ou de, enfin, on a l'impression qu'il y a d'une page à l'autre, il n'y avait pas d'idée préconçue et pourtant c'est construit, c'est maîtrisé, c'est
Ouais, elle maîtrise aussi la narration, ça, il n'y a pas de,
ouais.
y a pas de problème. Et oui, il faut le lire, je pense. Enfin, je vous le conseille, en tout cas. Et par contre, il faut le réserver parce que il est très, très, très demandé. On a certains collègues qui ne l'ont pas encore lu, justement, parce que il a beaucoup de succès. Donc, il faudra patienter un petit peu, mais vraiment, ça vaut le coup d'attendre. Je te laisse parler d'un autre monstre, Guillaume.
Oui, alors, et puis d'un autre livre. Alors, celui-ci, il n'y aura pas de problème de réservation dessus parce qu'il ne sort pas. C'est un livre du Fonds de conservation jeunesse. Nos collègues en section jeunesse, elles ont beaucoup de trésors. Et celui-ci est intéressant parce que on peut dire que c'est un livre documentaire. Il s'appelle « Le mystère du Loch Ness ». Il a 40 ans maintenant, il a été publié en 79. Et voilà, rescapé de la préhistoire, point d'interrogation. Quand on regarde la quatrième de couve, en plus c'est une couverture d'un violet pétant que les ans n'ont pas altéré. On voit un calamar géant, ce qui doit être la bête du Gévaudan, le Yeti. Donc tout de suite on est là dans une acception du monstre qui se voudrait plus scientifique, même si leur existence elle n'a pas été prouvée. Et ce qui est drôle dans ce livre-là, c'est que l'histoire des prétendues observations du monstre, elle est restituée sobrement, simplement, mais assez fidèlement. Il y a quelques débuts de tentatives d'explications scientifiques, ça et là. Et surtout, il y a plusieurs illustrateurs qui ont mis la main à la pâte. Et donc, il y a des styles graphiques différents d'une page à l'autre. Et voilà, ça compose une espèce d'univers. Il y a des choses qui sont vraiment très travaillées. Par exemple, au tout début, il est fait mention de la légende de Saint Colomba. Et dans une chronique du VIe siècle, il est dit que Saint Colomba, qui était donc l'évangélisateur de l'Écosse, il a repoussé un monstre qui terrorisait les gens. Et l'illustration à côté, bah, c'est une espèce de facsimilé de la tapisserie de Bayeux, sur laquelle on voit le saint qui dit au monstre en lui montrant la porte avec l'index « Va-t'en, va-t'en !» Et c'est assez stupéfiant, c'est rigolo. Et il y a un scientifique qui a écrit une petite préface à cet ouvrage. C'était un docteur S sciences zoologiques qui s'appelait Bernard Heuvelmans. C'était un véritable savant, c'était un monsieur qui a créé ce qu'il a appelé lui la cryptozoologie, c'est-à-dire l'étude des animaux encore inconnus, c'est-à-dire animaux légendaires ou animaux qu'on n'a pas pu observer de façon certaine. Et il y a un de ses ouvrages par exemple qui s'appelle Les derniers dragons d'Afrique et dans lesquels il disserte sur la possible existence de dinosaures dans les forêts primaire de l'Afrique. Et c'est assez drôle de le retrouver ici. Il faut dire que c'était un Belge. Il était copain notamment avec Hergé et il a été conseiller scientifique, si on peut lui donner ce titre-là, sur plusieurs de ses albums. Je crois que c'est sur l'île mystérieuse, le premier sur lequel ils ont travaillé ensemble. Sur celui qui se passe chez les Incas... J'ai plus le nom qui me revient en tête.
Le
temple du soleil, ouais, merci. Et on a marché sur la lune et également sur Tintin au Tibet, dans lequel apparaît le Yéti. Et donc la préface qu'il a écrite pour ce livre, elle est assez drôle. Je résiste pas au plaisir d'en lire juste un tout petit extrait. Il s'adresse au lecteur et il finit en disant « Demain peut-être, sans doute après-demain, quand vos enfants ou vos petits-enfants auront votre âge et que vous les emmènerez aux eaux voir le Yéti, vous lirez sur sa cage « Dinanthropoides nivalis Heuvelmans, 1958 » et vous direz « Cela signifie « terrible anthropoïde des neiges ». Tous ces noms barbares vous rappelleront votre enfance, ces livres illustrés qui vous auront fait rêver et celui qui les a préfacés spécialement à votre intention. » Et c'est vrai que moi je me souviens que j'avais découvert ce livre à la bibliothèque de l'endroit, enfin de la ville où j'habitais quand j'étais petit, et j'en étais absolument fan. Et c'est véritablement un livre qui m'a fait rêver, parce que voilà, c'était un mystère, c'était en plus un pays qui avait, l'Écosse, il y a tout un substrat culturel qui en lui-même était un dépaysement. Et bon, bah, à ce jour, la science n'a pas encore résolu l'énigme, même si récemment, il a été fait état de... possibles anguilles géantes qui peupleraient le Loch Ness. Mais voilà, je pense que c'est un livre qui, aujourd'hui encore, peut susciter le rêve chez les esprits curieux.
J'aime, je n'aime pas. J'aime la salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d'amande, l'odeur du foin coupé, les roses, les pivoines, la lavande, le champagne, des positions légères en politique, Glenn Gould, la bière excessivement glacée, les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de Havane, Handel, les promenades mesurées, les poires, les pêches blanches ou de vigne, les cerises, les couleurs, les montres, les stylos, les plumes à écrire, les entremets, le sel cru, les romans réalistes, le piano, le café, Pollock, Twombly, toute la musique romantique, Sartre, Brecht, Jules Verne, Fourier, Eisenstein, les trains, le Médoc, le Bousy, avoir la monnaie, Bouvard et Pécuchet, marcher en sandales le soir sur de petites routes du sud-ouest, les Marx Brothers, le Serrano à 7h du matin en sortant de Salamanque, etc. Je n'aime pas les loulous blancs, les femmes en pantalon, les géraniums, les fraises, le clavecin, Miro, les tautologies, les dessins animés, Arthur Rubinstein, les villas, les après-midi, Satie, Vivaldi, téléphoner, les chœurs d'enfants, les concertos de Chopin, les danseries de la Renaissance, l'orgue, Marc-Antoine Charpentier, ses trompettes et ses timbales, le politico-sexuel, les scènes, les initiatives, la fidélité, la spontanéité, les soirées avec des gens que je ne connais pas, etc. J'aime, je n'aime pas. Cela n'a aucune importance pour personne. Cela apparemment n'a pas de sens. Et pourtant, tout cela veut dire « Mon corps n'est pas le même que le vôtre ». Thank you.